Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Primo auditeurs et auditrices, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne m'insultez pas dans les commentaires.
Mais bien sûr que si, Mimi, je fais ce que je veux, d'accord?
Oui,
je
l'adore.
Je n'ai pas compris ce point dans le podcast.
Le kiff. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases.
Quoi? Quoi?
Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là, putain.
Mais ça va pas de me poser une question pareille.
Bonjour.
Bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans l'épisode numéro 185 de Laisse-moi kiffer. C'est incroyable ce qui se passe. Je suis Mimi, je suis toujours rédactrice en chef de Mademoiselle. Et ceci est un épisode de Laisse-moi kiffer un petit peu spécial puisque nous sommes accompagnés par un partenaire. C'est Nextory, une application de lecture en streaming qui propose plein de contenus pour consommer du coup des livres, à savoir des e-books, des BD, des podcasts, des livres audio, énormément de choses. On vous en reparlera bien évidemment au fil de l'épisode et vous pouvez d'ores et déjà retrouver dans la description le lien vers Nextory bien évidemment, mais aussi un code promo qu'on vous détaillera un peu plus tard. Je suis entourée du coup d'une équipe de choc que je vais vous présenter via une petite question de type questionnaire de Proust,
oui,
délicieuse, mais elle va te plaire, Kalindi Rampel, qui râle en permanence. Qu'est-ce qu'on
J'ai
a fait
dit
dans
oui,
le dernier
putain.
Épisode que t'as raté
On Mais a en fait,
quoi,
je sais plus.
Non, mais t'étais pas là au dernier
ah, d'accord.
épisode. Alors, il faut quand même être transparente. À l'heure où je vous parle, on a tourné le précédent épisode littéralement hier et Kalindi a oublié qu'elle n'y était pas. Cela dit, je me moque de toi et j'ai littéralement déjà oublié c'était quoi la question questionnaire de Proust d'hier.
Mathis, peut pas vous aider du coup.
Ok, incroyable, c'est pas grave. On va en faire une nouvelle qui sera tout aussi passionnante mais aussi inoubliable.
Ah, attends, celle qu'on devait faire, tu veux dire?
Non, celle qu'on a faite hier.
Je me rappelle des deux autres que j'ai faites quand j'étais là, mais ça remonte
oui,
un peu.
Hier, c'était les signes du printemps.
Ah oui, c'est vrai.
Quel signe annonciateur du printemps est-ce
qu'on a fait hier?
Oh là là, est-ce que
tu as échappé à ça,
Kalindi,
voilà.
Moi, j'aurais été un marron, voilà, je le dis.
Un marron?
Mais ça sort pas en printemps.
C'est en automne.
Ouais.
Ok, je confonds toujours les deux saisons. Ok, c'est bon, c'est bon. Tu sais que je sais jamais laquelle est laquelle, Mimi, je l'ai déjà dit 8 fois dans ce podcast. Je ne sais jamais.
C'est l'info que je préfère sur toi et oublie tout le temps.
Mais oui.
Parce que c'est une incapacité que personne n'a dans ma vie. Je savais pas que c'était.
Je sais jamais printemps si c'est quand ça pousse ou si ça commence à aller moins bien.
Bah, printemps ça pousse parce que ça commence par un.
Voilà, automne ça descend.
Ça tombe. Ouais. Automne la pluie tombe.
Ah non, moi je suis un marron, mais c'est
bah,
pas la bonne époque.
Ok,
je l'ai.
Et bah, là, heureusement que t'étais pas là au dernier épisode du coup parce que la question de la semaine est plus adaptée à tes compétences, j'ai l'impression.
Tu peux être une fleur de châtaignier du coup?
Ouais, voilà, un truc comme ça. Non, mais.
Eh, belle pirouette. Bravo, bravo Sophie, bien rattrapée. Du coup, la question que j'ai pour vous, pour cet épisode, et en l'honneur de Nextory et de la littérature, c'est quelle autrice ou auteur êtes-vous? Non pas je suis Stephen King ou je suis Agatha Christie, mais plutôt c'est quoi votre style d'écriture? Est-ce que vous êtes du genre à devoir vous isoler avec zéro bruit et zéro personne? Est-ce que vous allez dans un petit café pour écrire? Est-ce que quand vous vous lancez sur un article, vous êtes en mode « Ok, je vais fermer tous mes onglets et mettre un casque de chantier » ou est-ce que comme moi, vous papillonnez à travers différentes notifications toute votre vie? C'est ça l'idée, tu vois. Du coup, je me suis dit, comme Kalindi, tu es autrice, Mathis, tu écris des choses, moi j'écris des choses, toi Sophie, tu écris des choses. On a tous et toutes
non, mais c'est une
la
super
capacité
question.
De répondre à cette question.
C'est vraiment super.
Top. Tu veux répondre?
Ouais.
Ou... Eh ben, super.
Moi, je suis une autrice maritime.
Moi, s'il n'y a pas de voilier, je ne crée pas.
Non, mais en fait, le truc, c'est que cette question, elle est biaisée parce qu'en effet, c'est notre métier à tous dans cette salle, quasiment. Pardon, j'ai dit quasiment en te regardant de manière super méchante, Mathis, pour une raison que je ne m'explique
j'ai,
pas.
J'ai pris ça pour le chien. Ruby
c'est vrai
écrit
que son
peu.
Métier est plutôt de rompiche. Donc ça va.
Donc là, en vrai, je suis censée, on est tous censés être des autrices polyvalentes qui sommes capables, en théorie, d'écrire partout. Mais entre écrire, en effet, un article et écrire un roman, une nouvelle ou que sais-je encore,
une série télé,
de fiction,
peut-être.
Ou une série, un film, peu importe, je trouve que c'est plus simple d'écrire face à la mer. Et c'est pour cette raison précise, qu'en juin, j'ai pris des vacances pour partir en Grèce, là où je vais chaque
Attends,
été.
Rappelle quand même que tu as pris des vacances pendant ton congé sabbatique. Tu étais d'ores et déjà en
non,
congé sabbatique.
Non, là, je parle de mes prochaines vacances. Là, en juin prochain.
Tu repars en Grèce?
Oui, ça, ce sera l'été.
Oui. Super.
Ça, tu l'as. L'été, il fait beau, tout ça.
Enfin, la fin du mois, hein, parce qu'on est quand même au printemps.
Ah, c'est le 20, c'est le 20 21. Fête de la musique, 21. Ouais.
Deux jours après mon anniversaire, sachez-le.
Ah, notez bien. On y pensera. 19 juin, envoyez un DM à Sophie.
Ouais. Vous noterez que je ne connais rien sur les saisons, c'est quand même un peu calamiteux.
Alors
que
c'est toutes les années pareil, quoi.
J'avoue.
Ouais, ouais, non, mais ça m'étonne moi-même. Et donc voilà, donc là j'ai pris des vacances en juin pour retourner sur mon île grecque et il n'y a nulle part où j'écris mieux parce que qu'est-ce que je fais ? Je vais au restaurant de la plage Akladi Beach qui est juste en bas de mon hôtel, enfin de mon Airbnb ou R&B comme dirait la concierge d'Alix que je salue au passage et qui dit vraiment.
Mais c'est le concierge podcasting univers, c'est quoi entre ta gardienne, les concierges, les logeurs Airbnb ? On va faire un épisode guest avec
ce
toutes vos gardiennes.
Trop bien d'avoir...
Ah, j'ai une gardienne maintenant.
Bravo.
Je lui parle jamais. À part pour lui dire bonjour et on n'a jamais interagi, donc j'ai pas peur d'elle comme
c'est
j'ai
trop
peur de ta gardienne.
Toi.
Mais il faut un podcast qu'on appelle la conciergerie où c'est que des concierges qui parlent parce que vraiment c'est que des gens incroyables,
mais
très
ouais,
désagréables en revanche, mais souvent très très intéressants.
Ça dépend, on fait pas de généralité sur nos podcasts.
Franchement, sur les
français.
Concierges, de ce que j'ai vu dans la vie, je généralise.
C'est vrai, globalement.
Voilà. Not all concierge, mais.
mais not all concierge. Et du coup, je vais dans ce restaurant. En général, je commande une petite salade grecque pour commencer et après des pâtes au ouzo et aux crevettes. Et là, je me descends une bouteille de rouge et là, j'écris des choses nullissimes, mais dont j'ai l'impression qu'elles sont géniales puisque je suis saoule. Voilà, c'est comme ça que je suis autrice.
Très bien, autrice maritime, mais aussi autrice en état d'ébriété.
Autrice culinaire.
Oui, aussi. Évidemment. Autrice gourmande.
Autrice gourmande, voilà.
Mathis, quel auteur es-tu ?
Eh bien, je suis un auteur névrosé qui a une deadline et qui s'y met la veille, mais qui y arrive très bien. Moi, je fonctionne bien dans le sang, le chaos et les larmes à rendre des choses de qualität, comme disent les Belges.
Les Allemands, qualität.
C'était la blague.
Ah,
peut-être que les Belges aussi disent qualité.
Je connais pas assez le flamand.
C'est comme les saisons. Les saisons et le flamand, c'est pas tes domaines.
Ils parlent quatre langues dans ce pays, c'est insupportable. Qu'est-ce que c'est ?
On adore les Belges, on les embrasse.
C'est vrai qu'on les adore. Non, du coup, oui, je suis ça. Je l'ai été sur plein de trucs, genre mon mémoire, typiquement, qui s'est vraiment rendu dans le chaos, mais littéralement.
Tu as une thèse à faire, là, un truc comme ça cette année ?
J'ai
une thèse ? Mais
j'ai
une
mémoire une nouvelle fois.
À quel âge on passe une thèse ?
J'étais là, je suis pas sûre que t'aies une
bonne. En gros, un doctorat, c'est 2 à 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, après un master, donc t'as genre, je sais pas.
25 ans.
25, 26.
Pas 50, quoi.
Ok,
ouais,
wow.
T'as les golfs qui se creusent, quoi. Ouais, non, et du coup, voilà, je suis plutôt ça parce que j'écris plutôt mieux la nuit, beaucoup sur ordi et beaucoup avec de la grosse musique sur les oreilles à fond. Donc, c'est un peu l'idée, voilà. C'est pas.
Je suis incapable d'écrire de la musique,
mais...
c'est très bizarre.
Ouais. Ma sœur, elle a une playlist où elle chope les seuls trucs qu'elle chope de tout ce que j'écoute, c'est vraiment pour écrire. Elle est en mode j'écoute des trucs très calmes et mais les trucs que moi j'estime extrêmement trash, violent et vénère parce que globalement on entend vaguement de la batterie à un moment.
Mais la vraie question, c'est comment s'appelle ta playlist d'écriture ? Parce que j'imagine qu'elle s'appelle pas playlist d'écriture, connaissant ta science du nom des playlists.
J'ai pas de playlist d'écriture parce que j'écris pas toujours dans les mêmes moods et que ça me gêne pas trop d'avoir des paroles tant que c'est pas des paroles en français parce que je peux un peu. Dissocier quoi. Par contre, j'ai une playlist pour vraiment me concentrer et où j'ai du mal à. Où j'ai la moindre perturbation qui me gêne. Et ça, c'est une playlist qui s'appelle Se concentrer à s'en faire exploser les tempes. Je crois que c'est ça le titre.
Ok.
Qui est une image de cerveau qui explose, l'espèce de mème là avec le fond bleu et le cerveau qui est. Gros flash de lumière et tout. Voilà.
Très bien. Sophie, welcome back déjà dans Laisse-moi kiffer.
Oui.
Merci.
Les auditeurs et auditrices commencent quand même à te connaître, mais ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas entendu, donc welcome back.
Merci.
Donc Sophie, tu travailles à la régie commerciale de Mademoiselle, voilà, pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Et quelle autrice es-tu ?
Alors c'est assez difficile, j'avoue. Je dirais là comme ça une autrice adaptable, en fait, parce que j'arrive à lire ou à écrire un peu partout. Je fais assez, enfin par exemple, je lis dans le métro. Je sais que j'ai plein de potes qui n'y arrivent pas du tout. Dès que je suis en transport ou quoi, sauf en voiture parce que je suis malade. Mais sinon, grosso modo, et pareil pour l'écriture. Et en fait, des fois, je vais entendre des trucs en discussion ou dans des musiques, des trucs, et je me dis ah ça c'est cool et je le note ou je le garde dans un coin de ma tête et je me dis ça peut me servir pour un papier, des trucs et tout.
Ah ouais, mais non seulement t'écris partout, mais en plus tu t'isoles pas, enfin tu vois, tu captes quand même ce qui se passe autour de toi pendant que t'écris.
Ouais, ça.
Waouh, quel talent.
Ça peut. Après, ça dépend aussi de mon niveau de fatigue. Je vais pas, voilà. Mais voilà, enfin, je vois la matinée, Mademoiselle, Open Space.
Oui, bon, après, connais. Voilà, comme disait Camille, il y a l'écriture pour oui, le travail qu'on est bien ça, obligé de faire quand il faut travailler.
Il y a des cases de chantier, hein.
C'est vrai qu'on a des casques de chantier.
Moi, ça m'aide. Hein. Ont... Ah là là, mais par contre, je le dis comme ça, si vous faites des casques de chantier, faites quelque chose de plus lâche au niveau des oreilles, parce que là, c'est terrible. Je le porte une heure, après, j'ai une otite, quoi, tu vois, c'est l'enfer.
Envoyez du coup en DM à Kalindi vos recos de casques de chantier. Merci. De qualité.
Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'écrire un roman encore, mais voilà, et ce n'est pas fait encore, mais...
J'aime je crois qu'il encore, faut créer son occasion, parce que je sais pas si on a souvent l'occasion,
mais rarement on t'ouvre l'occasion, on a une occasion d'écrire un roman.
C'est ça,
c'est vrai.
Peut-être qu'on viendra chercher, tu as dit. Peut-être qu'une maison d'édition viendra te chercher et te dira mais voici une occasion d'écrire un roman.
Franchement, si ça arrive, enfin, je serais contente pour toi, mais qu'à moitié, parce que j'aurais grave le seum quand même. Ça fait vraiment 4 ans que je dis dans Laisse-moi kiffer, j'écris un roman, n'hésitez pas à me contacter, me proposer des choses.
Tu dis aussi que ce que t'écris, c'est pas bien.
Je vais arrêter de me déprécier.
Ouais,
ce que je fais, toi, c'est du génie, putain.
Bah oui, puis c'est mon domaine maintenant, donc il y a un moment, on laisse oui, de la place aux copains. La dépréciation, c'est moi ici.
Exactement, c'est vrai, c'est vrai.
Vous et d'ailleurs, pas, je le fais mal.
Ça va devenir méta. Ok, donc autrice voilà, adaptable à toute situation.
Oui, voilà, on va partir là-dessus.
Bravo.
Je dors de... aussi n'importe où, d'ailleurs.
Tu dors aussi n'importe
où.
Oh,
c'est insupportable. C'est les pires personnes, ouais, ça.
Mais non, mais écoute, je crois qu'en fait, j'ai eu un frère et une sœur assez tard. J'ai pris l'habitude d'être réveillée la nuit.
Ah ouais, tu t'es adaptée.
Voilà. De se prendre des petits vomis, des petits, tu vois, des petits trucs comme
je
ça.
Je pense
assez
à mon stérilé, je suis là, ah, je l'aime bien.
J'ai trop hâte de savoir quelle autrice tu es, Mimi, parce que j'en ai aucune idée. Toi qui as quand même sorti un roman, enfin, t'es la seule à avoir publié un livre. Dans
c'est vrai, j'ai publié un livre, voilà, il s'appelle Ils vécurent heureux, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies de qualité.
Et dans la description de ce podcast.
Évidemment. Attends, est-ce qu'il est sur Nextory? Non, je pense pas. Non, je vais pas chercher, on n'a pas le temps, bref. Alors, moi je suis une autrice entre Matisse et Sophie. C'est-à-dire que je suis Sophie à cause du fait que je suis comme Matisse.
Ou...
C'est-à-dire... Franchement, physiquement,
un peu,
elle écrit entre nous deux.
En vrai, un peu.
Elle écrit qu'entre nous deux, mais on non, est sur un banc, elle est au milieu.
Ok, je te laisse réfléchir à est-ce que je pourrais être l'enfant de Matisse et Sophie. J'ai envie de dire très peu, mais déjà, ces deux personnes ont les yeux clairs, enfin, rien ne va bien se passer. Mais...
Chérie, les enfants racontent maybe, n'importe quoi.
Bref, en fait, je suis une autrice adaptable qui peut écrire à peu près n'importe où parce que je suis une autrice qui procrastine jusqu'au dernier moment.
Ah.
Donc, je ne choisis pas la situation dans laquelle j'écris.
Exactement.
Je subis la temporalité qui est, bah, de toute façon, c'est pour maintenant. Donc, il faut le faire maintenant parce que tu ne l'as pas fait avant. Et justement, mon bouquin, j'ai compris que j'étais vraiment capable d'écrire dans à peu près n'importe quelle situation parce que j'ai bien évidemment fini mon bouquin le jour de la deadline à 23h parce que c'est qui je suis. Alors que j'avais bien évidemment un an pour l'écrire parce que je me déteste. Et du coup, je l'ai fini. Donc, j'étais chez mon mec qui, à l'époque, habitait dans un petit 30 mètres carrés avec un lit en mezzanine dans le salon. Voilà. Et je l'ai fini le jour J où, dans un grand élan de foi en moi-même, j'avais dit à mon gars, bien sûr, tu peux organiser une soirée tel jour. Certes, c'est la deadline de mon bouquin, mais je l'aurais bien évidemment fini avant. Pas du tout. Du coup, il y avait soirée chez mon mec. Moi, j'étais là parce que j'avais la flemme d'aller chez moi et que j'étais là, bah non, j'ai pas envie d'être toute seule. Donc, j'ai fini mon bouquin, assise sur le lit en mezzanine, en fumant des clopes, pendant qu'en bas, ça faisait soirée. Et j'étais juste en mode, en fait, j'en ai marre, j'ai envie de finir ce Google Doc et d'aller faire la fête aussi. Mais j'ai réussi, malgré la soirée. Et mon pote, mon mec a vraiment des potes chaotiques. Je crois qu'à un moment, il faisait des pompes et à un autre moment, il jouait à Ring Fit alors qu'on avait vraiment un petit appart. Enfin, bref, absurde. Et j'ai quand même réussi.
Et tu étais en train d'écrire Ils vécurent heureux quand même.
Oui, tout à fait, et on vit heureux.
Parce qu'en couple avec une personne qui invite des gens qui font des pompes, moi je ne vis pas heureux.
Mais je les adore, je ces ne potes, vis pas, c'est d'ailleurs, juste que je peux pas les... Ils me fatiguent plus vite qu'ils ne le fatiguent lui, mais ce niveau de chaos me fatigue plus vite. Mais je les adore et je les embrasse. Donc voilà, autrice adaptable, parce que je subis encore ma capacité à procrastiner et à tout faire en last minute, et à pas être très inspirée avant, parce qu'en vrai, il y a plein de fois où j'ai ouvert le Google Doc et j'étais vraiment en mode...
Je pensais qu'on aurait été plus d'auteurs maritimes, tu vois.
Mais j'ai pas testé en fait. J'ai pas été en Grèce, tu vois, pour manger.
Non, mais ça pouvait
boire.
Être en Normandie,
mais...
tu vois.
Mais tu sais, quand t'as dit ça, moi je croyais que t'allais me dire j'adore écrire sur un bateau.
Pareil, moi j'étais en voilier.
Vous m'avez souvent vu sur des bateaux.
Je t'ai rarement vu face à la mer aussi, Kalindi.
Bah, j'y suis quand même pour toutes les vacances, mais je suis rarement sur un bateau. Parce qu'en fait, j'ai fait de l'optimiste quand j'étais petite, j'ai détesté ça. Et depuis, je suis pas très bateau, quoi. En plus, je trouve toujours que même dans les yachts et tout, les chiottes, c'est... Enfin, j'y suis allée qu'une fois. De pas vraiment.
Dans les yachts.
Cette snobberie incroyable. Même dans les yachts,
non,
les chiottes, vous avez remarqué ou pas, elles sont pas confortables.
Non, mais c'est pas ça. Je sais pas, ça me dégue un peu. Il faut toujours mettre de l'eau dedans. J'ai pas dû être dans des yachts très chics, mais. Enfin voilà, non, ça me saoule. Les conditions sanitaires.
J'ai embarqué sur des bateaux bon marché avec des toilettes fonctionnelles.
Ah ouais, bah c'est peut-être moi qui suis allée que.
Ouais,
ouais, non,
mais des
j'ai...
gros machins quoi.
Non, bah moi j'ai pas eu à chaque fois, c'était des toilettes un peu artisanales.
Les yachts avec des toilettes sèches, c'est comme.
Mais non, c'est pas des toilettes sèches, c'est juste que. Tu sais, comme t'es sur un bateau.
Tu mets un seau d'eau dedans quoi.
Voilà, pour rajouter un peu. Enfin bon, voilà.
C'est des luxes, mais c'est des gens qui ont pas de transit quoi.
Non, mais c'était peut-être pas un yacht, c'était peut-être juste un voilier, je sais plus.
Comme dans les camping-cars.
Ouais, ou une barque.
C'était peut-être une barque.
C'était une barque avec des chiottes à la turque quoi.
Écoutez. Vous vous ferez votre propre idée sur les chiottes de yacht en allant sur des yachts, puisque nous ne sommes pas en mesure de vous parler trop précisément de ce sujet.
Alors pardon, mais j'ai une question et un jeu de mots. Est-ce que vous êtes team, on reste sur l'univers maritime, team premier jet? Voilà, vous l'avez à la maison?
Ah.
Merci. Le jet d'eau.
Ah putain, j'étais sur le jet l'oiseau, également. J'étais là, peut-être c'est pas un oiseau marin le jet, bref.
Non.
La vie n'est pas Hunger Games. Ok.
Mais non, mais du coup, j'avais une vraie question. Est-ce que vous êtes team premier jet ou est-ce que vous êtes team
alors
à réécrire beaucoup en écriture?
Ah bah mon gars, t'as vu comment je procrastine. Heureusement que je suis team premier jet parce que j'ai pas le temps de retravailler derrière. J'ai jamais fait de brouillon de ma vie.
Ah, parce que moi, je procrastine, mais je suis team pas satisfait, tu vois.
Ah mais moi je me relis pas, je suis là. C'est,
ah ouais.
Ça part. Oui, j'ai confiance en mes capacités. Non mais parce que sinon, tu vois, le mieux est l'ennemi du bien. C'est comme quand tu t'essayes de t'égaliser la frange et qu'à force de remonter un côté puis l'autre, tu finis, tu sais, en tonsure de moine. Bah du coup c'est pareil avec ce que j'écris. Si je me relis trop, je vais juste essayer d'améliorer un truc qui est déjà pas mal et je vais le casser en essayant de.
Je pense que ça c'est pas valable pour la fiction. Après j'en sais rien.
Moi, j'en
peut-être
écris
que
pas encore, mais j'en écrirai bientôt puisque je vais écrire le jeu vidéo Game of Thrones.
Et oui.
C'est
intéressant de savoir. Oui. Fiction versus pas fiction.
Ah bah ça
si
beaucoup,
tu dois retravailler tout le temps ou si tu fonctionnes aussi comme ça pour genre d'un coup.
C'est écoute, je vous dirais. Et après, il y a eu des retours de toute façon sur mon bouquin, par exemple. J'ai fini le premier jet, c'est-à-dire ce que j'ai envoyé à mon éditrice le jour de la deadline. C'était pas la version finale du bouquin parce qu'après, bah, elle étant éditrice de métier et moi étant autrice qui débute, elle m'a quand même évidemment fait des retours. Mais c'est pas moi qui les ai repérés à la relecture, quoi. Je me suis pas relue avant de l'envoyer. Bref, cette intro est un peu longue. Il est temps de passer donc à la deuxième partie de cette intro seulement, à savoir les commentaires. Avez-vous des commentaires? Et je vais commencer par toi, chère Kalindi.
C'est une personne qui s'appelle Mayclap. Hop. Hello! Pour rebondir sur le dernier LMK que j'ai écouté, la famille Madrigal, c'est tellement nul. Tout à fait d'accord avec toi, aucun intérêt, des caricatures, en veux-tu, en voilà, et niais à souhait. Ayant la carte UGC illimitée, j'aurais aimé le faire rembourser, mais non. Et on ne me rendra pas mes 2 heures de temps. Voilà. Voilà un petit coup de gueule sur ce film à supprimer de l'audiovisuel public, sauf en cas de torture des yeux.
Les gens sont intenses.
Je suis bien d'accord avec toi, Mayclap, merci beaucoup.
J'adore ce commentaire qui dit juste, vous voyez, il n'y a pas que moi.
Exactement. Ah oui, j'ai pas remis en contexte. La famille Madrigal, c'est évidemment pour le film Encanto de Disney,
Encanto,
qui est vraiment pas bien.
Qui est très bien selon d'autres personnes. Voilà, vous écouterez. Laisse-moi kiffer.
Il paraît que la musique de ce film a surpassé
celle de
la
Reine
des Neiges.
Ouais.
Mais je la trouve.
La famille Madrigal.
Ouais.
Bon, vous écouterez voilà. L'avant-dernier épisode de Laisse-moi kiffer si vous voulez entendre Kaline dire aller dessus. Mathis. As-tu un commentaire?
Oui, j'ai un commentaire et j'ai un commentaire qui ne m'est pas directement adressé parce que je l'ai pioché sur le compte LMK parce que bon, les gens nous écrivent donc autant qu'on leur réponde. C'est une personne qui s'adresse à Kalindi. Salut les LM Kiefer, j'ai pensé à vous aujourd'hui en lisant le dernier numéro d'Info Levallois. Voilà, déjà je vous laisse digérer cette information.
Déjà cette intro est incroyable.
C'est le meilleur magazine.
Exactement. 8 mars oblige, une page est consacrée aux Levalloises célèbres. On n'y trouve aucune trace de la mère de Kalindi, smiley un peu circonspect. Par contre, j'ai appris que Madame Soleil est enterrée dans ma ville. Ça compte comme une anecdote de star?
Oui.
À part ça, continuez le bon boulot, c'est super. Voilà, c'était de Sémile Pellinoglu.
Eh bien, bientôt. Prochain 8 mars, dans les femmes célèbres de Levallois, il y aura une Rampfel. Toi ou ta mère, je ne sais pas, mais une des deux.
Voir les deux. Incroyable.
Ah, il y a Josh Jonathan dans les Levallois célèbres, parce que du coup, elle nous a mis un screen de la page.
C'est vraiment les Levalloisiennes.
Oh la vache.
Je sais pas, c'est l'Info Levallois, le magazine
officiel.
Non,
mais c'est parce qu'elle l'a écrit Levalloise, mais c'est vraiment Levalloisienne. Hein. J'ai vraiment vécu 22 ans là-bas, c'est vraiment.
Non, c'est Levalloisienne, c'est peut-être moi qui ai mal lu son
oui,
truc.
Je pense.
Oui, Levalloisienne, pardon.
Très bien, nous n'allons pas dire que les LM Crado font des erreurs sur les habitants de leur propre ville.
Non, c'est Mille, c'est pas toi, c'est moi.
Sophie, ça fait longtemps que tu n'es pas venue, donc je t'en voudrais pas si tu n'as pas de commentaire. Mais je te vois scroller, je suis là. Oh, est-elle si pro?
Alors non, malheureusement, j'ai pas de commentaires, mais j'espère en avoir la prochaine fois. N'hésitez pas à m'écrire.
Le lien est dans la description.
Voilà, je suis disponible, je vous réponds, n'hésitez pas.
Go follow, bien sûr.
Elle dit ça d'un air sage, mais elle est en larmes, en vérité.
Bien sûr, le cœur est brisé. Alors, moi, j'ai des commentaires informatifs, car souvenez-vous, dans l'épisode précédent, j'ai mentionné le fait que comme je suis une personne anxieuse, il y a des choses que j'arrive pas à faire parce que j'arrive pas à me représenter comment l'interaction va se passer et ça me bloque. Bref. Par exemple, je n'arrive pas à aller à la mercerie faire un ourlet à mes pantalons parce que je cogite trop sur est-ce qu'il faut que j'y aille avec mon pantalon sur moi et du coup, mais bon, du coup, ça veut dire qu'il faut que j'enlève dedans et je lui donne, donc il faut que j'aille avec un autre pantalon. Est-ce qu'il faut que j'y aille avec un autre pantalon et mon pantalon pas sur moi, mais du coup, comment il saura où est-ce qu'il faut faire l'ourlet et après je tourne dans ma tête et je panique. Bref. Et du coup, les LM kiffeurs et LM kiffeuses m'ont très gentiment expliqué comment se passe une interaction à la mercerie afin que je puisse y aller sans avoir peur. Voilà, merci d'être tolérant et tolérante envers mes petits blocages. Et je tiens à dire que il y a quand même une personne qui... Oui. Alors, je vais vous lire deux. Le problème, c'est que trois personnes différentes m'ont dit voilà comment ça se passe à la mercerie et les trois disent pas la même chose. Donc, merci de vous mettre d'accord. Mais on a d'abord Hathor Mythologie qui me dit salut Mimi pour ta question mercerie dans le LMK. Je voulais juste te dire que les merceries et petits couturiers ont, en général, en tout cas tous ceux que je connais, une sorte de cabine d'essayage. Donc si tu as un doute, au pire, rentre pour demander. La plupart sont adorables et aiment vraiment ce qu'ils font. Personne ne te demandera de te mettre toute nue dans la boutique, ça choquerait les mamies. Je te déconseille de pré-marquer l'ourlet avec les épingles chez toi. Ça ne sera jamais aussi bien que quand c'est un professionnel qui le fait. Et je parie que la personne à qui tu demanderas l'ourlet te fera mettre le pantalon dans la cabine pour le refaire de toute façon. Et... la personne me dit « Je suis aussi une paniquée des interactions sociales. Le marché est ma hantise, mais tu peux le faire. Force et courage. » Et ça m'a fait penser que pendant très longtemps, je n'allais pas faire le marché parce que j'étais aussi paniquée des interactions sociales du marché que je ne comprenais pas. Mais je me suis forcée car j'adore bouffer. Et ça a payé. Donc ça, c'est la première take. C'est bien sûr, tu y vas, il y a une cabine, tu enfileras le pantalon sur place, ils marqueront l'ourlet pour toi et tout. Et ensuite, il y a Trust Me, I'm an alchemist qui dit sur le forum « Mademoiselle ». Pour les ourlets, Mimi, tu as trouvé toute seule, donc elle me dit l'inverse, comme quoi il suffit de se faire confiance. Si tu ne veux pas te blesser, utilise des épingles à nourrice. Tu peux les garder quand tu achètes des fringues neuves ou en friperie qui parfois en ont sur l'étiquette. Pas besoin de faire l'ourlet sur les deux. Donc en gros, elle me dit, mets le pantalon chez toi, marque l'ourlet là où tu veux, fixe-le avec une épingle à nourrice sur une seule jambe, de toute façon, ils vont faire la deuxième pareil. Et les gens de la mercerie sauront, c'est leur taf de retoucher des trucs. Donc elle me dit, fais-le chez toi, et l'autre personne me dit, fais-le là-bas. Et il y a encore une autre personne qui m'a dit, non, il faut y aller avec le pantalon sous le bras et tout. Donc mettez-vous d'accord, mais merci en tout cas de m'aider.
Peut-être que chaque mercerie a sa propre méthode aussi.
Oui, mais du coup, moi, ça s'annule. Après, je n'irai jamais, du coup.
Ah oui, d'accord.
Non, mais je vais juste finir par rentrer dans une mercerie et dire « Bonjour, j'ai un pantalon qui a besoin d'un ourlet. Comment ça se passe ?» Et
bah
ce
oui,
sera
voilà. Oui.
Simple, en fait. Mais j'ai...
Tu fais des balises.
L'idée sociale n'est pas très logique.
Ouais. Et toutes les merceries n'ont pas... Parce que des fois, c'est des petits endroits. Il y a
ouais,
pas
le
forcément
truc
de cabine.
Cabines, ouais, j'étais voilà. Là... Alors, peut-être ça dépend des villes, mais à Paris, vu le prix des loyers, j'ai pas l'impression que tout le monde a la place d'avoir une cabine d'essayage. Vu que j'ai même fait des friperies géantes où il y avait zéro cabine, et si tu veux un pantalon, fous-toi un culotte dans les rayons, quoi. Donc, mais il se trouve que mon mec m'a offert quand même à Noël un pantalon cargo en velours, qui est incroyable. Ça n'a pas de sens comme ça, mais il est incroyable, juste beaucoup trop long, donc je vais finir par me motiver à aller en mercerie avant de pouvoir le porter au moins une fois dans ma vie quand même.
Ou mettre des talons. Les deux représentent
non,
une anxiété.
Non, je fais pas ça. Non, non, ça, c'est pas une anxiété, les talons. C'est un choix de vie de ne pas faire ça, de ne pas m'infliger ça. Genre, j'ai essayé, j'étais là. Oula, ça fait très mal, ces conneries. Du coup, c'est non. Ok, c'est l'heure de l'anecbof de Star. Une anecbof de Star qui m'a été envoyée par Morgane sur Instagram. Elle me parlait d'autre chose et elle me dit « Si jamais tu veux une anecbof de Star, j'en ai une. » Alors, je veux toujours une anecbof de Star, sachez-le. Ne me proposez pas, donnez-la-moi. Elle me dit qu'elle est guide sur les food tours de No Diet Club à Lille. No Diet Club, rappelez-vous, je vous en avais parlé dans LMK il y a longtemps, dans le monde d'avant. C'est des food tours où du coup, bah, on sillonne une ville en mangeant énormément de bouffe grasse. C'est vraiment super. Et donc Morgane me dit « Dans un des restos, nous étions à l'étage où il y a les toilettes et là arrive un grand mec avec sa petite fille. Moi, je le reconnais tout de suite parce qu'en bon Lillois, on le croise souvent. Et j'avais avec moi des Lillois, des non-Lillois et des Néerlandais. Les Lillois captent qui c'est. Les non-Lillois voient vite fait qui c'est. Mais j'ai dû expliquer à des Néerlandais en anglais qui était Camini et ce qu'était Marly Gaumont. Ce qui est mon anecdote de Star préférée, franchement.
C'est très bien.
C'est très bien, bien sûr, on embrasse Camini. S'il veut venir dans Laisse-moi kiffer, qu'il n'hésite pas, ça me ferait très plaisir. Et on a, pour terminer, un petit message.
Ouais, ça fait longtemps.
Boubou, message réré, message bourré, envoyé par Éléonore. Et pour rappel, prenez soin de vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Et vous verrez que c'est des bouts de... Et vous verrez que c'est des bouts de messages bourrés parce que tout simplement ce message durait 6 minutes.
Ah, c'est donc un message de 6 minutes remonté par Mathis. Merci
ouais,
Mathis.
J'ai essayé de réduire un peu la chose. Désolé, Léonore.
Allez, ça part.
Coucou, laisse-moi kiffer. Je m'étais dit que je pourrais jamais être assez bourrée pour faire un message, mais là, je suis à Lille. Genre, c'est cool comme ville et tout, et j'ai passé des trop bons moments. Et franchement, genre là, je suis à Lille, mais. et je suis en agroalimentaire et du coup là c'est une des premières soirées parce que j'étais pas en échange mais je travaillais et tout. Et genre je suis trop contente de pouvoir faire un message. C'est une des premières soirées que je fais cette année. Et vraiment vous êtes une team de malades. Genre j'ai commencé à écouter Laisse-moi kiffer un peu tard. Là j'écoute pas parce que mon écouteur droit il est cassé. Et j'écoute que de l'oreille gauche et du coup c'est dommage. J'ai enlevé mes lunettes, c'est marrant. Tout est flou, c'est rigolo. Mais vraiment s'il vous plaît arrêtez pas, c'est trop bien. Moi j'écoute pas tout à la suite. J'arrive pas à attendre une semaine entière, c'est long. Ou même tout. En fait, Laisse-moi kiffer Game of Thrones, genre je me mets tout doucement au podcast. Et gros big up à Mimi parce que c'est la rescapée un peu. Kalindi, franchement Kalindi, j'aimerais bien te rencontrer. T'es une personne tellement genre un peu incroyable, je trouve. On dirait, enfin, c'est un peu incroyable de se dire que t'es une vraie personne. Et c'est trop marrant. Et genre, Aïda, elle me fait trop rire avec ses trucs juste de gauche. Et après, il y a toujours plein de nouveaux invités. Et je dois vous dire que même, genre, j'avais écouté tous les Laisse-moi kiffer, j'étais à l'heure, genre, et tout. Et après, j'ai arrêté et j'attends un peu pour avoir plein de Laisse-moi kiffer à écouter à la suite. Parce que c'est ça que je préfère, écouter à la suite et me taper des barres de rire. Vraiment. Et j'attends mes nouveaux écouteurs pour me taper plein de barres de rire. Donc merci. Vous êtes des best. Vous êtes les ouais. Meilleurs. Laisse-moi kiffer. Je vous aime.
Ah, trop bien.
Meilleur message. Merci.
Et ça, c'est la version coupée. Hein,
ouais, en vrai, je me sens un peu chanceuse d'avoir accès à la version longue parce que c'est incroyable. Mais 6 minutes, c'était un peu long quand même pour vous.
N'hésite pas à mettre tes lunettes quand tu te balades. Hein.
Oui, ça alors, Eleonore, quand t'es bourré et que tu te balades dehors, maybe, n'enlève pas tes lunettes pour dire c'est rigolo, tout est flou. Tout sera flou anyway, a priori. Donc garde-les quand même, c'est plus sûr. Merci beaucoup pour ce message, Eleonore. Je ne sais pas quand tu l'entendras dans Laisse-moi kiffer puisque tu attends d'en avoir plusieurs d'avance. Ce que je trouve impressionnant, mais ça dure quand même plus d'une heure. C'est quand même
si tu trouves que, en plus, une semaine d'attente, c'est long. Si tu dois attendre genre 2 mois pour avoir 8 épisodes de Laisse-moi kiffer, c'est long, hein.
Grave. Mais j'aime ce self-control.
Ouais, c'est okay. Bravo.
C'est l'heure de passer au sel de ce podcast, à savoir...
Le jingle.
Les kiffs. Et donc, le jingle, bien sûr.
Jingle, c'est pas celui de Cédric, là. Encore, putain.
Jingle.
Fini de rire avec vos putains digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais, fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire des mèmes en gif. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs.
Wow, merci Valentin. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, on fait un épisode un petit peu à thème, puisque, en l'honneur du partenariat avec Nextory, le service de streaming de littérature, nous allons tous et toutes vous parler d'héroïnes de la littérature qui nous ont marquées, touchées, et vous expliquer pourquoi. Et je vais te donner la parole, Sophie, pour ouvrir le bal.
Waouh, je me sens
waouh.
Du coup, oui, juste pour rajouter sur Nextory. Un petit
oui, je te laisse coup. Présenter aussi ouais. Nextory, bien sûr, de façon ouais. Un peu plus précise.
Un peu plus précise. Alors, c'est une application en fait qui est donc disponible sur vos smartphones, ordinateurs. Enfin voilà, une application quoi, finalement.
Vous voyez.
Les applications, elles sont toutes sur les ordinateurs. C'est une question que je me pose vraiment. Hein.
Pas toutes.
Ah, super.
Il y a des applications qui sont que mobiles.
Ah, voilà, c'est ça. Oui. Merci. Merci pour cette précision. Voilà,
n'hésitez pas, laisse-moi kiffer le podcast de la tech, finalement.
C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, comme c'est des livres, là, tu vois, je me dis... L'écran est beaucoup plus gros sur ordinateur, donc plus pratique. Et donc, c'est aussi sur ordinateur. Enfin, d'accord, je pense ouais. Qu'ils ont... Enfin, voilà.
Je confirme, pour le coup, c'est utilisable sur ordinateur.
Oui, voilà.
D'autres questions sur les supports techniques? Vous au fond à droite là-bas.
Au pire, on va au quatrième étage voir les geeks du Madoïde.
C'est ce que oui, j'allais dire.
Étage, voilà, on leur
mais
demande.
Ça,
je leur ai demandé
épisode.
Un téléphone là plusieurs fois l'autre jour et tout le monde m'a dit non, c'est fou.
Non, mais moi aussi j'essaye de gratter un iPhone ou un aspirateur robot. Bah, je veux ni l'un ni l'autre.
Ils ont des aspirateurs.
La rumeur court. Ouais. La rumeur court, mais après on va dire que je crée des problèmes.
Mais du coup, oui, Next
Revenons
Story.
Revenons à Next Story.
Ouais, c'est un service, donc, enfin, parce que c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment un service qui permet de démocratiser la lecture. On a accès quand même à 250 000 titres, donc de tout genre, des BD, des romans, des essais, des nouvelles, voilà.
Et même de la presse.
Oui, même de la presse.
Ah, il y a même de la presse.
Oui. Ouais. Vraiment, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ça peut intéresser tout type de lecteur. Voilà, donc allez-y, que vous soyez des petits lecteurs, grands lecteurs, je pense que vous trouverez votre bonheur. Et en plus, vous avez droit, avec la formule premium, à un livre audio par mois. Parce que oui, il y a une formule premium Nextory, et sachez que nous avons un code promo pour ça.
Le code dans la description, vous aurez toutes les infos, mais Sophie va vous les dire, alors pas besoin de prendre un carnet et un stylo, vous pourrez les retrouver dans les notes du podcast.
Courez ! Prenez un crayon ! Un parchemin !
Pardon. La clepsydre !
Désolé.
Le code promo est tout simplement LMK et il vous donne accès à 6 semaines à l'offre Premium Nextory. Et dans cette offre, vous aurez e-book, BD, presse en illimité et un audiobook par mois pour seulement 11,99€ par mois. Et c'est valable jusqu'au 31 mai.
Trop
tout à
cool.
fait. Voilà. Et donc sur cette superbe application, j'ai trouvé donc un livre qui s'appelle « Comme une comète, une histoire de postpartum et d'albinisme ». Alors comme ça, voilà,
wow.
C'est très...
Ok, le programme, let's go.
Voilà, je suis partie sur une héroïne du quotidien. et du coup, l'autrice, c'est Aurélie Kropp. Et ce livre m'a vraiment touchée parce que, en fait, c'est un livre autobiographique. L'autrice est illustratrice et c'est elle donc, qui a. Voilà, elle a fait tout le livre, elle a fait les dessins, les textes. Enfin, voilà, c'est très top. Enfin, c'est super. Et en fait, ça a été fait dans un but précis, c'est d'avertir les futures mamans ou potentiellement même les femmes en général, des moments difficiles, violents, de solitude et parfois de honte qui sont ressentis pendant la grossesse, après la naissance et même quand on est maman et qu'on se retrouve des fois un peu seule.
Si vous ne parlez pas latin ou si vous n'êtes pas trop au fait des questions de parentalité, le postpartum, c'est la période après l'accouchement, tout
oui,
simplement.
C'est vrai. Merci Mimi pour cette précision.
Point contexte.
Voilà. Et c'est vrai que, en fait, alors je n'ai pas prévu d'être enceinte tout de suite, hein, ou même, voilà, je ne suis pas enceinte actuellement, mais ça m'a quand même.
Ça aurait été une belle façon de nous l'annoncer,
voilà.
Dis donc.
Bah
oui, comme en fait, bah, j'attends mon premier bébé, voilà, on aurait été là quoi, champagne.
Mimi aurait bien
non,
voulu un
champagne.
Petit frère ou une petite sœur, quoi.
C'est carrément. Mmh. Finalement.
Pire que la famille Madrigal, c'est vraiment la famille matrixée, mais.
La famille LMK, la LMK Family, on prend.
Et en fait, voilà, elle a vraiment créé ce livre parce que elle s'est retrouvée.
Du coup, tu disais, voilà, t'as pas prévu d'être enceinte tout de suite, t'es pas enceinte là maintenant, mais ça t'a quand même,
ça m'a quand même
parlé,
touchée.
Même si t'es pas concernée par la problématique du postpartum pour l'instant. Quoi.
Exactement, parce que en fait, j'ai appris plein de trucs que je ne savais pas. Et pourtant, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un frère et une sœur, avec qui j'ai 11 ans et 13 ans d'écart. Donc, genre, j'ai suivi la grossesse de ma mère et tout.
Ouais, puis t'as dû changer les couches et tout, quoi.
Oui, voilà. Enfin, vraiment. Et en fait, enfin, alors ma mère, elle est hyper, elle parle jamais, elle est très introvertie, elle parle jamais de ce genre de choses. Et je m'étais pas rendu compte qu'en fait, c'était si difficile, quoi. Genre. La reconstruction du corps après la naissance, les moments de solitude, les... Enfin, pour moi, j'ai toujours eu l'impression... Bon, maintenant, j'ai grandi, mais à l'époque, que ma mère adorait être mère, surtout adorait les bébés,
etc. Ça n'avait que des bons côtés, finalement.
Exactement. Je voyais qu'elle était fatiguée, mais je me disais, bon, c'est une adulte, elle a 40 ans, elle est fatiguée.
Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués. Et on n'a pas encore de gosses.
C'est ça. Mais là vraiment, et en fait les premières pages du livre elle le dit en fait, moi on m'a pas prévenue, genre typiquement elle n'est pas allée au cours d'accouchement parce qu'elle s'est dit, quand je vois les nanas dans la rue avec leur premier bébé ou même enfin genre ça a l'air tellement inné, naturel, que je me dis j'ai pas besoin de prendre des cours, et en fait si, elle a regretté, et en fait tu te rends compte que rien n'est facile et que les gestes ne sont pas forcément naturels. Et voilà, donc c'est un livre qui raconte un peu les différents passages de la grossesse et des fois les violences gynécologiques aussi qui sont abordées, des fois la famille, tout le monde qui essaye de donner des conseils, qui va de son conseil, plus ou moins avisé.
C'est pareil pour les chiens.
Oui.
Vraiment. Tu rencontres des gens random dans la rue qui font « Ah, vous lui mettez ce genre de harnais ?» Pardon, je vous ai parlé, je ne me souvenais pas de ce moment où l'interaction avait commencé.
Je n'ai pas souhaité d'avis en fait sur ce
mais
que
vraiment.
Je fais dans la vie, donc très bien.
Moi je donne mon avis vachement sur comment les gens s'occupent de leurs animaux.
T'as un podcast qui s'appelle Le Seul Avis. Tu peux t'arrêter à moi, je donne mon avis vachement. C'est tout.
On sait. Non, mais surtout sur les animaux, enfin, ça me paraît évident. Dès que t'as un animal, t'as l'impression que t'es en bon droit d'aller te donner ton avis sur les animaux des autres.
Des randoms dans la rue.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah après moi je parle à tout le monde dans la rue dès que les gens ont un chien ou whatever. Non mais c'est vrai, dès que les gens ont un chien, dès que je vois un chien, je suis là gentil, gentil.
Oui, mais ça,
les
ça
gens,
va.
Les
là,
gens
tu
naturellement
parles au chien,
s'arrêtent. Et après j'ai souvent
car ils s'inquiètent pour toi, c'est normal. Car sinon tu dis bonjour et tu cours.
C'est vrai. On dirait que je fais un AVC, c'est pas faux.
Voilà.
Ah, c'est peut-être le chien qui s'inquiète, quoi, qui regarde le proprio, mais attends, on se pose parce que là, il y a un truc.
L'autre jour, j'ai vu deux Shiba, et vraiment, j'ai commencé à être là, bonjour, 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 bonjour. Et les Shiba me regardaient avec tellement de jugement, et genre, ils se regardaient entre eux, tu vois, et genre, ils faisaient tout pour pas croiser mon regard. Genre, cette personne va nous faire disparaître. Tout bizarre, voilà.
Non, merci, madame.
Oui.
Ok, donc.
Oui, donc voilà, je disais, ce bouquin aborde la grossesse, donc tous les bons aussi moments, même si au final, elle pensait que ça allait bien se passer, ça ne se passe pas si bien que ça, parce qu'elle est... Voilà,
bah, on n'est jamais sûr, hein, voilà. Qu'est-ce que le corps va faire, c'est toujours un peu la surprise.
C'est ça, exactement, et elle se rend compte aussi que, en fait, l'équilibre vie professionnelle, vie de maman, en fait, enfin, on demande aux femmes de devenir maman, mais on leur laisse pas le temps de l'être, clairement. Le temps de travail n'est pas du tout adapté, et même une fois que son petit naît, c'est hyper compliqué, c'est forcément elle qui doit aller le chercher le soir, enfin, des choses comme ça, ça aborde vraiment cet équilibre-là.
Elle est aussi. La personne, son travail, c'est d'être autrice ou...
C'est une illustratrice à l'origine.
Ok, d'accord.
Qui fait des livres pour enfants à l'origine, et en fait quand ça lui est arrivé, elle a dit moi je veux dire tout ce qui se passe,
oui,
en fait,
oui,
pourquoi,
oui.
Parce qu'en fait c'est un peu un secret de polichinelle, on dirait.
Bah c'est très tabou, je pense, ouais. La réalité, les aspects plus négatifs de la maternité notamment, parce qu'en plus il y a cette idée de les femmes, il y a le mythe de l'instinct maternel qui est encore solide, malheureusement, qui est, rappelons-le, quelque chose qui n'existe pas. C'est ce dont on parle beaucoup sur Daronne, la verticale parentalité de Mademoiselle, de lever les tabous autour de la grossesse, de l'accouchement, de la vie avec un enfant, parce que en fait c'est important d'y aller pour les bonnes raisons et en sachant vraiment dans quoi on met les pieds. Donc que ce soit les côtés négatifs de voilà élever un enfant, les côtés négatifs du quotidien, de il fait passer nuit, de machin, et puis tout l'aspect hyper genré de en fait pour une femme. Statistiquement, c'est pas une très bonne idée dans sa vie de faire un enfant, tu vois. C'est une bonne idée parce que ça rend heureux quand on veut un, et c'est super, faites des enfants si vous en voulez, mais c'est un peu comme pour une femme, c'est pas une très bonne idée de se marier avec un gars, tu vois. Statistiquement, ça va pas améliorer ta vie. Et bah, tu vas quand même subir le patriarcat aussi quand tu deviens mère. Et je crois que c'est. Attends, j'ai un article là à deux pas, comme ça, on est quand même un podcast d'actualité, c'est incroyable. 37% des Françaises, selon une récente étude, considèrent qu'avoir des enfants et s'en occuper est une menace pour leur carrière. Et le problème, c'est qu'elles ont raison, parce que les chiffres montrent qu'effectivement, quand tu deviens maman, ta carrière risque d'en pâtir, quoi.
C'est ça. Ouais. Malheureusement, voilà. Ça ne finit pas là-dessus.
Non.
Mais il y a aussi... Alors, ce livre aborde aussi l'albinisme, parce qu'en fait, au bout de quelques mois, elle se rend compte que son enfant ne réagit pas quand elle fait des signes devant lui, etc. Ou des petits... Enfin voilà, il y a des petits signes, etc.
C'est peut-être un Shiba, hein.
Vraiment, cette blague.
C'est la fin des comparaisons enfant-chien. Voilà. Il y en a eu deux, c'est la fin. C'est le max. Fallait les étaler si tu voulais en profiter plus longtemps.
Émoji colère.
Et il y a aussi le fait que son enfant est très blond, les yeux très clairs. Et en fait, c'est souvent le cas de beaucoup d'enfants très petits.
Oui.
Sauf qu'en grandissant, là, se pose la question, ça s'estompe pas, c'est marrant, alors qu'elle n'est pas très blonde et son mec non plus. Et en fait, il se trouve qu'il découvre qu'il est albinos, ce petit... Max, il s'appelle d'ailleurs. Et en fait, elle explique qu'est-ce que ça engendre, parce que je sais pas vous, mais moi, je connaissais pas du tout cette maladie qui est considérée en fait comme un handicap en France.
Ok, parce que... je savais pas que c'était considéré comme ça. Ouais.
Si, si. En fait, les albinos, alors ça dépend, t'as plusieurs niveaux, évidemment, mais les albinos, par exemple, doivent porter des lunettes. Ont souvent une très mauvaise vue.
En termes de soleil et tout, c'est hyper risqué. Ouais.
Et du coup, il y en a qui sont qui ne verront jamais comme nous. Qui, okay. Par exemple, sur 10, ça peut descendre très très vite à 1 ou 2 sur 10. Quoi.
Okay.
Donc t'es quasi malvoyant, en fait.
Et ah donc oui, tu... un sur 10.
Oui, et donc là, en l'occurrence, on lui dit tout de suite, c'est un peu qu'il pourra jamais conduire, par exemple. Enfin, voilà, c'est en fait ça. Ça cause plein de soucis.
C'est pas juste l'apparence qui change, quoi. Ça a des vraies conséquences aussi dans le reste.
Exactement. Et donc du coup, très vite, il faut trouver des lunettes adaptées, un bébé, tout ça. Enfin, voilà. Et puis aussi, il y a le côté, ils ont la peau très claire, mais au-delà de ça, en fait, le petit ne peut pas sortir sans crème solaire. Et donc, elle doit trouver une nounou qui accepte de lui mettre de la crème solaire toutes les 2 heures, surtout l'été.
Oui, et qui déconne pas, quoi. Qui peut, enfin, tu exactement. Peux pas autant un gamin qui n'est pas albinos. Bon. On oublie une fois de lui mettre de la crème, on a un peu la flemme, il prend un coup de soleil, on n'en meurt pas. Là, il est spécifiquement fragile, donc il faut que la nounou soit tight sur toutes les 2 heures, c'est toutes les 2 heures, quoi.
C'est vraiment... oui, voilà, enfin, sinon il risque un cancer très très vite, quoi.
Voilà, ce qui est pire qu'un coup de soleil, dans la hiérarchie des trucs nuls, voilà.
C'est ça. Et en fait, il y a plein de choses comme ça. Et moi, personnellement, je ne savais pas qu'être albino, ça pouvait être vraiment considéré comme un handicap à part entière. Je ne sais pas si vous étiez au courant.
Globalement, pour le soleil, oui.
Enfin, après, il y a plein de trucs qu'on connaît pas. Mais du coup, j'ai. Et au final, c'est marrant aussi de voir comment cette femme se retrouve. Du coup, le livre s'appelle comme une comète, parce qu'en fait, le petit est arrivé comme une comète dans sa vie. Voilà, en gros, c'est ça l'image.
C'est joli.
Ouais. Et en fait, quand elle dit aux gens, oui, il est albinos, enfin, les gens réalisent pas, en fait, tout ce que ça engendre derrière, toutes les recherches, tous les tests, parce que, au départ, ils veulent savoir d'où ça vient, parce qu'ils connaissent, enfin, ils ont pas de personne albinos, et en fait, c'est génétique, et c'est assez répandu, finalement, enfin, ça saute des générations, mais même si vous avez quelqu'un de votre famille qui a été albinos, il y a 2-3 générations, ça peut arriver à vos enfants, enfin. Voilà, enfin, ça dit beaucoup de choses. C'est très recherché, c'est basé sur certaines études aussi. Et oui, en fait, je me sentais assez seule. Je ressens sa solitude quand elle dit oui, mon fils est albinos, les gens réalisent pas. Et elle essaye que la vie de son gosse soit normale, en fait, qu'il puisse jouer avec les autres, qu'il puisse apprendre à lire, parce que du coup, au départ, il voit rien, en fait, vraiment, qu'il puisse être autonome, parce que au-delà, enfin. La conduite, ça va arriver que quand il sera plus âgé, mais il y a plein de choses du coup qu'il peut pas faire, qu'il peut pas. Enfin voilà, c'est et le faire devenir autonome aussi sur certaines choses, qu'il prenne l'habitude de mettre une casquette, qu'il prenne l'habitude de
et oui, de prendre soin de lui et de se protéger aussi quoi.
Et de, enfin voilà, c'est voilà, ça m'a beaucoup touchée et voilà, donc merci Aurélie Kropp pour ce livre et aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les dessins tout est en bleu, jaune et rose.
Okay.
Dans le livre, ouais.
Okay.
Voilà. Et du coup, c'est très joli parce qu'elle traite d'un sujet qui est assez dur, finalement. Et en même temps, tout est en couleur pastel. Donc...
ça t'apaise l'âme un peu.
Ouais, grave. Voilà, tout est... Enfin, voilà.
Très joli. Trop bien. Merci beaucoup. C'est donc comme une comète, une histoire de postpartum et d'albinisme.
Exactement.
Incroyable programme.
Voilà.
Merci Sophie.
De rien.
Mathis.
Bonjour.
De quelle héroïne vas-tu nous parler ?
T'as mis tes lunettes de Jacques Chirac pour parler de ça.
Bah oui, mais ça fait 3 ans, quoi, donc bon.
Ah, mais j'avais jamais remarqué.
Non, mais je les mets pas tout le temps.
Je les mets
plus devant mon ordi en général. C'est juste que là, je les avais sur les... Bon, on s'en fout, non ? Attendez.
Oui, mais c'est pas grave.
C'est pas faux. Oui, du coup, mon héroïne, tout simplement, c'est Annie Ernaux. Et ce qui est pratique avec Annie Ernaux, c'est que c'est aussi l'autrice. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous avais parlé il y a quelques épisodes d'Edouard Louis qui s'écrivait beaucoup et qui écrivait beaucoup son trajet sa trajectoire de transclasse. Bon, là, on est sur quelqu'un qui a un parcours similaire. Simplement, c'est pas du tout la même génération puisque Annie Ernaux aujourd'hui a à peu près 81 ans. Et je dis pas ça en mode faux, elle a vraiment 81 ans, ce que j'aurais pas cru d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui, comme Édouard Louis, a beaucoup cherché à écrire son parcours, mais aussi le réécrire, et la mémoire, ça la travaille beaucoup. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion sur la façon de livrer cette parole-là. C'est quelqu'un qui essaie d'avoir un style très très épuré. On parle souvent d'écriture blanche ou d'écriture plate, c'est des termes qu'elle utilise elle-même. C'est-à-dire qu'elle essaye d'avoir quelque chose de très épuré où elle va enlever tout lyrisme, toute forme d'humour ou quoi pour vraiment arriver avec l'exactitude. Elle disait dans une interview, quand elle écrivait, elle se demandait pas si c'était beau ou si c'était bien, elle se demandait si c'était juste, si c'était vraiment ça. Et du coup, c'est quelqu'un qui a l'air d'être obsessionnel, en fait, avec des périodes de sa vie. Et donc, sur Next Story, du coup, j'ai trouvé Retour à Yvetot, qui est un de ses livres les plus récents, qui doit dater du début des années 2000. Et en gros, là, il y a une version qui est lue par Dominique Blanc, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et déjà parce qu'elle est lyonnaise, donc voilà. Et en plus, c'est parce qu'elle est à la Comédie Française, que je l'ai vue dans quelques pièces, et puis on la voit aussi beaucoup au cinéma, elle a tourné avec énormément de gens. Moi, je l'avais vue notamment dans Réparer les vivants, si c'est un film qui vous parle, et qui joue très très bien, et qui a une très très jolie voix, et du coup, voilà, l'entendre lire Annie Ernaux, c'est tout de suite un duo qui fonctionne très bien, et c'est deux héroïnes que j'aime beaucoup, on va dire. Et Annie Ernaux, en fait, à chaque fois, est l'héroïne de sa propre histoire, mais sans... comment dire, avec une forme d'humilité où, en fait, à la fois, elle va décrire ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressent, etc., mais sans se mettre en scène, entre guillemets, dans le sens où, en fait, c'est vraiment comment restituer un environnement social autour de soi dans un récit à la première personne, quoi. Et c'est vraiment ça qui la travaille.
J'ai pas compris. Je suis désolée. Comment restituer un environnement social autour de soi dans un récit à la première personne ? Je suis là. Je dis cette phrase, je comprends tous les mots séparément, j'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci, mais je sais pas ce que ça veut dire.
Comment, en gros, tu arrives à, en écrivant ton propre parcours, à dire beaucoup de choses de la société dans laquelle t'as grandi ?
D'accord ! Oui.
Voilà.
Sortir du cas individuel pour aller au macro et au systémique.
Exactement.
J'ai compris.
Si vous voulez, on fait tout le reste du podcast avec des synonymes, on y va. Hein.
Franchement, j'ai dormi 3 heures cette nuit, il faut quand même le dire. Donc peut-être que cette phrase était limpide et que juste mon cerveau ne marche pas.
Non.
Il dit qu'il est là. Non, t'as bien fait de demander parce que c'était chaud.
Non, je suis une personne qui porte du velours côtelé, voilà, on peut le dire.
C'est Sophie qui le fait. Ouais, merci, moi, ça.
Bref, mais justement par rapport à ça, ce qui est intéressant avec Annie Ernaux, contrairement à moi, c'est quelqu'un qui est agréable à lire et à écouter parce qu'elle est très...
Tu es agréable à lire et à écouter, Mathis, oh là là.
Ouais, parce qu'elle est justement très compréhensible, très accessible et elle permet de comprendre en fait en une phrase ou en un paragraphe les enjeux d'une situation. Ce qui fait que quand elle parle, par exemple dans L'événement, qui est un livre dans lequel elle parle de son avortement, de concrètement comment elle se sent à ce moment-là, c'est-à-dire à une période avant que ce soit légalisé, dans un milieu où elle n'a pas du tout les clés, il n'y a pas papa qui connaît un médecin qui peut faire ça un peu en douce, à chercher une faiseuse d'anges quelque part dans Rouen un peu en panique. Ben voilà, quand elle l'écrit, vraiment, en fait, ça devient concret et on n'a pas besoin d'avoir un rappel de la jurisprudence sur 15 ans et avoir des termes vraiment galvaudés, etc., comme moi je les utilise pour vous perdre. Et du coup, voilà, justement, dans tous ces livres, elle est travaillée par cette simplicité et je trouve ça très, très beau. Et en même temps, ça permet à chaque fois d'en connaître un petit peu plus sur elle et elle se corrige, elle fait des échos à ses différentes œuvres. Ce qui fait qu'en fait, on peut assez bien les marier ensemble. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais vu une fois au théâtre à Lyon, encore une fois, bonsoir Lyon.
Bonsoir Lyon, oui. Hi Lyon.
Il y avait une pièce qui s'appelait Le Katsu, qui mélangeait 3 pièces d'Annie Ernaux. Alors je pense qu'il va m'en manquer une, évidemment, parce que c'est toujours comme ça. Je crois qu'il y avait la place, les armoires vides, et peut-être La Femme gelée, mais je ne suis pas sûr. La Femme gelée qui est du coup sur sa mère, qui est une très très belle expression d'ailleurs, mais c'est un peu l'idée de quelqu'un qui ne peut pas s'accomplir, qui est un peu gelé dans son ascension ou dans son envol. Et du coup, voilà, elle mélangeait ces pièces-là et avec 3 comédiennes qui incarnaient chacune une génération et qui se passaient un peu le relais pour raconter les trucs. Enfin, c'était très très beau. Bref, tout ça pour dire que Annie Ernaux est un personnage en soi et que c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup le travail et j'admire aussi la constance avec laquelle elle garde la radicalité qu'elle a parce que comme Édouard Louis, c'est quelqu'un qui vient de milieu populaire et qui aujourd'hui est reçu sur France Culture tout le temps, mais en fait qui n'a pas un peu de mépris pour le milieu dont elle vient et qui en fait reste très révolutionnaire. Enfin, il y a encore un gros potentiel transgressif dans ce qu'elle écrit et dans ce qu'elle dit. Il y a une interview de Libération qui est beaucoup revenue, en tout cas sur mon feed Twitter récemment, où il prenait des citations et vraiment il y a des questions où elle est encore bien virulente pour une meuf de 81 ans, tu vois. Je sais plus ce qu'il lui demande exactement. Je me demande s'il lui demande pas son bilan de l'action du gouvernement, etc. Et en fait, à chaque fois, elle tire à boulet rouge, quoi. Annie, elle arrive, elle est en mode « Attends, vas-y, je vise », et puis
ça
c'est parti, quoi.
Ça devait être un moment marrant.
En vrai, c'est drôle. C'est drôle de lire une go de 81 ans qui a plus de potentiel de transgression que beaucoup de gens de ma génération, en fait. Ouais, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est mon héroïne Annie Ernaux, et notamment dans Retour à Yvetot, qui du coup est une petite ville de Normandie où elle a grandi. Voilà.
J'avais jamais entendu parler de cette ville.
Mais non, il n'y a pas grand-chose à Yvetot. Même moi, je ne connaissais pas. D'ailleurs, parce que c'est la Haute-Normandie que je connais très peu, en fait. Et puis en plus, parce que vraiment, il n'y a rien, quoi. Enfin,
je n'ai jamais entendu parler de cette dame de ma vie.
Annie Ernaux, j'ai l'impression d'être inculte. Mais du coup, ça donne très envie.
Bah, on en a beaucoup parlé à cause de l'événement, parce que c'est sorti en film récemment.
Oui, bah, l'événement, du coup, je vois.
Bah, l'adaptation, c'est comme ça que j'ai l'adaptation d'Audrey Diwan, du coup.
Elle est incroyable.
Oui, bah,
et il y a Passion Simple aussi qui a été adaptée il n'y a pas très longtemps, qui est aussi d'Annie Ernaux, qui est un roman dans lequel elle raconte sa liaison avec un homme qui, je crois, était marié.
Choqué.
Ouais, et en gros, comment, en fait, elle en venait à... prendre les miettes qu'on lui donnait, quoi. Il y a un terme en anglais pour ça dans les relations qu'on appelle le breadcrumbing, c'est-à-dire être prêt à accepter n'importe quoi pourvu qu'on donne un petit peu d'attention.
Le breadcrumbing, il y a un peu une idée petit poussé de la personne fait un peu exprès aussi, me semble, de te... Justement, la personne te donne le minimum pour te garder accroché, mais te fait un peu marcher consciemment.
On a un article là-dessus sur Mademoiselle.
On a un article là-dessus sur Mademoiselle, tout à fait.
Eh bien, vous le lirez dans la description.
Tout voilà. À fait. Et bah trop cool. Écoute, ça a l'air oh là là, c'est toujours passionnant tes kiffs. Je me sens cultivée après.
C'est clair.
Merci Mathis.
Merci beaucoup. Bravo, surtout Mathis, quand je vous parle de High School Musical.
Ah oui. Ou du chien.
T'es très éloquent.
Cal, c'est quoi ton kiff?
Oh, moi c'est très classique comparé à vous. C'est très classique, mais moi c'est pour l'histoire derrière évidemment cette héroïne plus que pour l'héroïne. Moi je vais vous parler d'un des personnages qui m'a un petit peu donné le goût de la littérature quand j'étais petite fille. Et c'est Jane Eyre.
Ah.
Jane Eyre.
J'étais vraiment en mode Jane qui.
Jane Eyre.
Jane Eyre, yeah, you know.
Et
c'est laquelle des Brontë, celle-là?
C'est Charlotte.
Charlotte.
Et en fait, moi, j'ai hésité entre Jane Eyre, on va la dire à la française, entre Jane Eyre et Elisabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés, parce que c'est les deux livres que j'ai lus quand j'étais petite et qui m'ont vraiment, genre, matrixé la tête et que j'ai lu 152 fois dans le grenier de ma meilleure amie Élise Piécoc, vous la connaissez.
Ah non, c'est Florence Chartier dont tu ne dois plus dire le nom.
Ah non, c'est Élise Piécoc.
Ah, très bien. Eh bien, bisous à L2.
On ne parle pas d'Élise Piécoc, on ne dit pas le nom d'Élise Piécoc.
Hippie, ouais.
Attendez, j'ai pas la ref, pourquoi on ne doit pas dire son nom?
Ah oui, pardon, parce qu'apparemment,
elle est anonyme.
A dit, en fait, elle en a marre que je raconte sa vie dans ce podcast, mais franchement, une fois de plus, une fois de moins, hein, qu'est-ce que ça change? Et en fait, voilà, Élise, elle a une grande maison en Bretagne que j'aime beaucoup, qui est pas loin de la mer. Est-ce que vous connaissez? C'est à Pléneuve-Val-André, c'est très joli. Bah, c'est un endroit où on a envie d'être une autrice maritime, tu vois. Et donc, elle a cette belle maison avec ce joli grenier. Et dans ce grenier, il n'y a rien, parce que moi, je fais des terribles allergies au bois. Bon, bref, du coup, dès que j'y vais, j'étais un nu et tout, c'est l'enfer.
T'es allergique au bois?
Ouais, je suis allergique au bois, au sable et aux chevaux.
Ça existe
et
pas.
Et à l'huître.
Attends. Du coup, t'es une autrice maritime, alors ça fait trois éléments.
Ah, mais de toute façon, moi, je suis malade tout l'été. Et à chaque fois que je vais à la plage, j'éternue tout le temps. J'ai toujours des antihistaminiques sur moi. Quand je vais dans des maisons de campagne, j'ai des antihistaminiques. Voilà. Et
t'as les pires allergies pour la personne que tu es quand même.
Exactement. Hein. Et wow. Donc, dans cette maison, dans le grenier, il y a une énorme bibliothèque avec tous les classiques de la littérature britannique et française, surtout. Et donc, quand j'étais petite avec Élise, on se servait. Et quand on a découvert Jane Eyre, c'est moi qui l'ai lu la première. Et après, je lui ai donné. Et en fait, toute notre vie, on l'a relu à des moments un peu en même temps. Et Jane Eyre, est-ce que vous connaissez tous cette histoire?
Non. Oui. Non, moi j'ai raté la vibe de romantisme anglais, Jane Austen,
voilà,
tout ça, je m'en fous.
Alors moi, vraiment, quand
même
j'ai eu 12 ans...
Léo de Hurlevent, ça n'a pas marché sur moi, alors que ça aurait dû, franchement, j'étais émo quand j'étais ado.
Non, mais Léo de Hurlevent, c'est difficile à lire, et en plus, moi, la seule fois où j'ai essayé de le lire, c'était en anglais. J'ai vraiment lu 8 pages et j'ai fait, vas-y, laisse tomber.
Puis il y a des mauvaises traductions aussi, hein, parce que j'avais essayé de le lire, moi, pour le coup, en français, ouais. Et vraiment, la traduction n'était pas folle du tout.
Mais je crois que, en fait, je sais pas si t'es la plus talentueuse des sœurs Brontë, parce qu'elle a écrit vraiment celui-là et après ça en était fini de sa carrière, donc voilà.
Elle a participé.
Il y a peut-être un signe, tu vois.
Histoire d'être dans les sœurs Brontë quand même, tu vois, de dire, oh, j'ai fait un livre, wesh.
C'est ça. Et donc, Jane Eyre, ça raconte quoi? Donc, c'est l'histoire de Jane Eyre. Moi, ce que j'aime chez elle, c'est elle est dans le style martyr qui se roule dans le foin, comme de cette époque-là, tu vois, 19e.
Oh, un peu Madame Bovary qui se plaint tout le temps, là.
Bah ouais, mais attends, elle a pas une vie facile, Jane Eyre, pourquoi?
Bah, je sais pas, raconte-moi le pitch.
Parce que. Quand elle était... Bah déjà, elle perd ses parents. Orpheline, dans 100% des romans de cette époque. Et du coup, elle atterrit dans un orphelinat horrible où genre tout le monde la maltraite. Finalement, après, ça va mieux. Et elle étudie dans cet orphelinat pour devenir préceptrice. Et une fois qu'elle devient perceptrice... Préceptrice ?
Préceptrice, c'est enseigner à des enfants.
C'est ça.
Perceptrice, c'est percevoir les impôts.
C'est ça. Préceptrice. Donc, du coup... Notre Janère, qui vient de se faire maltraiter la pauvre bichette orpheline dans son orphelinat, elle réussit à se faire engager comme professeure chez un homme très riche, très mystérieux, qui vit dans une grande maison, un peu comme un château, qui s'appelle Mr. Rochester. Alors, elle, elle est toute jeune, elle doit avoir 18 ans. Lui, il en a plus de 40. Il est très ténébreux.
C'est donc l'origine des daddy issues.
Exactement. Il est très ténébreux, très mystérieux. Il a pas l'air très sympa. Il a l'air un peu louche, mais quand même, elle, elle est jeune, elle a jamais vu un homme. On rappelle qu'elle était dans son orphelinat, maltraitée par des femmes, pas sympa, tout ça.
C'est la mélodie du bonheur, en fait.
Un peu. Et du coup, elle est là, waouh, Rochester, j'ai un peu envie de le ken, mais à la fois je suis timide.
Voilà. Dilemme.
Et lui, qu'est-ce qui se passe? Problème, first problème, il est promis à une autre femme. Mais un jour, il dit à Janère, écoute, la vérité, même
si... Je veux bien te déglingue quand même.
Presque. Il lui dit, même si t'es un peu mal né quand même, je te kiffe, viens, je t'épouse. Elle dit, mais non, de
mais
ouf.
Conte de fées,
truc de la ouf
roturière,
et tout. Exactement. Et elle se dit, mais génial, mais Rochester, épouse-moi et tout. Pas de chance, c'est une tragédie, vous le savez, vous en doutez. En fait, il cache un secret terrible. Son secret, c'est qu'il... Oula. Son secret...
son vous secret... devinerez à la maison. Générique.
Son secret, merde. Son secret, c'est qu'il est déjà marié à une femme...
Albatard
qui est... Attendez. Non, parce que c'est terrible.
Ça fait peur, Janet.
Attendez. Ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'il a épousé une femme qui s'avère avoir eu de gros soucis de santé mentale et qui vit recluse dans une aile du château. Et en fait, Janère, la nuit, elle entend des bruits et elle pense que c'est un fantôme. Mais en fait, c'est sa femme qui est retenue un peu prisonnière. Mais qui, voilà, et elle finit par sauter du balcon, mourir. Je vous passe les détails. Et Janère...
Il y a une dame morte dans la cour.
Ouais.
Oui, c'est ma femme. Quoi?
C'est très problématique. Hein.
C'est ça, et Valérie
du coup, et du coup, elle dit, attendez, mais je ne veux plus de Rochester, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Belle gosse, tu vois.
Une femme forte.
Elle se casse, elle erre dans la nuit, c'est terrible, jusqu'à ce qu'elle trouve une petite maisonnée, avec notamment un gars, est-ce qu'il est pasteur? Je ne suis pas au fait des religions. Mais c'est un...
ni des saisons, ni des religions. Je ne m'en occupe pas.
C'est un gars religieux.
Il est pasteur, rabbin ou imam, un truc quoi, vous l'avez.
Et il est sans doute plus pasteur que rabbin ou imam, à mon avis.
Je pense qu'il est moine bouddhiste.
Voilà. Et en fait, il lui dit, bah, Jeanne, je te recueille, toi, tu peux taffer dans le comté, machin. Et donc, elle taffe là pendant quelques mois. Et un jour, elle se dit, j'ai un feeling. Parce qu'il y a quand même un truc un peu mystique dans Janère. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce roman. Elle se dit, je sens un truc. J'ai quand même du pif. Hein. Et donc, dans la nuit, elle refuit.
Bon, elle avait pas deviné que l'autre était marié, mais bon.
Non, mais elle se doutait qu'elle
aurait pu peut-être se dire, d'où vient cet enfant? Il ne l'a pas fait seul.
Oui, oui mais lui mytho, faisait, tu genre, vois, il lui, veuf. C'est un gros manipulateur, okay. Il dit qu'il est veuf, tu vois. Okay. Et donc, elle se dit un jour, attendez, je sens qu'il y a un truc qui déconne chez Rochester. Je vais quand même aller checker. Elle va
retourner
là-bas.
Attendez, Rochester, on sait déjà qu'il est
ah non, mais elle croit qu'il y a un truc qui cloche dans la maison de Rochester.
Oui,
c'est
oui,
ça
elle se dit, je sens qu'il y a un truc pas net, il faut que j'y retourne, quelqu'un est en danger.
Ah.
Elle y retourne. Et il s'avère que la maison a brûlé et que Rochester, en voulant sauver sa fille, c'est encore une fois défenestré, je suis là arrêtée. Donc il a sauté
des maisons de plein pied, c'est quand même beaucoup plus safe.
Il saute par une fenêtre et il perd la vue et une main. Et du coup, Janère se dit qu'elle va un petit peu s'occuper de lui. Finalement, heureusement, il recouvre.
De l'infirmière.
Carrément. Heureusement, au bout de 2 ans, il recouvre la vue. Finalement, ils font un nouvel enfant et ils vécurent heureux. Voilà.
Mais quoi, ça finit mal.
Ça finit assez mal, mais ce que j'aime avec Janère, c'est que même si, en effet, la syndrome de l'infirmière et que Bichette, elle finit quand même par tomber entre les mains d'un homme qui lui a pas mal manipulé et qui lui a pas mal menti, c'est typique de l'héroïne de cette époque-là, qui prend sur elle, qui est hyper résiliente, etc. Et moi, je l'aime, non pas forcément pour ce qu'elle représente en tant qu'héroïne de la littérature, mais je l'aime pour ce qu'elle m'évoque, c'est-à-dire mes premiers émois problématiques pour un homme plus vieux, donc Monsieur Rochester. Et,
j'aurais bien évidemment kiffé Monsieur de Rochester si j'avais lu Janère
à
12 ans,
il n'y
a pas de problème.
Tu m'étonnes.
Ma libido de préadolescente aurait
d'autant
fait...
Plus que... Exactement. D'autant plus que... Évidemment, il y a eu plusieurs films Jane Eyre, dont un qui a été réalisé en 2011 par Kari Joji Fukunaga, que j'adore. Et
qui avait
c'était
fait la saison 1 de True Detective.
Ouais, qui avait fait la saison 1 de True Detective. Et le premier film original Netflix qui s'appelait Beast of No Nation, je crois.
Oui, avec Idris Elba.
Exactement. Et il s'avère que le film, sorti en 2011, eh ben dedans, il y a qui? Qui c'est qui joue Rochester? C'est Michael Fassbender.
Oh,
et là, on coche tout, là.
Non, mais c'est triché aussi.
Là, on est là, stop. Vraiment, là, la moi de 12 ans, flaque totale.
Bravo de finir avec lui à la fin du livre. Là, c'est super.
occupe-toi jusqu'à la fin de tes jours.
Voilà, voilà. Et...
donc c'est Fassbender, c'est Mia Wasilowska, j'arrive jamais à dire. C'est ça, Vas...
C'est pas
ça.
Un I ?
Non, non, c'est
ah
un
non,
A.
Non, c'est un A.
C'est Vas. Ouais, c'est Wasilowska, c'est ça. Et Jamie Bell, et c'est Jamie Bell qui joue le curton, qui la recueille et tout. Le donc curton. Je suis là, casting de folie, j'adore.
J'adore.
Et cette histoire, eh ben, elle marche sur moi alors que j'ai 29 ans et que je sais qu'en vrai, sa situation à Janer, elle n'est pas cool. Mais c'est un classique de la littérature. Je suis attachée à Janer. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça arrive, même au meilleur d'entre
super.
Nous.
C'est super. C'est culte quand même.
C'est cultissime. Oui. On rappelle que ça a été écrit par une femme. Dans le... Ouais, complètement. Enfin bon, Janer, bordel de merde, c'était quand même au 19e siècle.
Littéralement, je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc, on fond tout le temps avec Orgueil et Préjugés en plus.
Orgueil et Préjugés, Elisabeth Bennet, Jane Bennet, on les adore. Et
je
pareil...
l'ai encore regardé la semaine dernière d'ailleurs.
Ah bah, mais on... moi j'adore ce film de Joe Wright. Et je précise que Joe Wright sera un nouveau film bientôt le 30.
Alors, ça, mon gars, c'est ce qu'on appelle glisser un micro-kiff vraiment en diagonale parce que ça n'a pas grand chose à voir avec ton kiff, mais I'll allow it. Vas-y.
Merci. Joe Wright. Le 30 avril sort un film qui s'appelle Cyrano, qui est évidemment tiré de Cyrano de Bergerac, que s'est approprié Joe Wright, donc le réalisateur qui a notamment fait Orgueil et Préjugés. C'est une comédie musicale avec Peter Dinklage dans le rôle de Cyrano de Bergerac qui jouait Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Et c'est intéressant. J'en dirais pas plus, c'est très bizarre. Wow.
Mais c'est beau ce qu'il fait en général.
C'est très beau.
Attendez, non, on va pas digresser sur Joe Wright. Vraiment, il est 16 ans.
Je dis juste que c'est, je crois que c'est un de mes réalisateurs préférés.
Ouais, bah, ouais. Je comprends. Ouais. C'est très romantique et du coup.
C'est beau, c'est bien fait.
Non, non, on va vraiment pas digresser sur. Vraiment, il est 16h10. On a commencé ce podcast à 14h30 officiellement. Donc on va pas digresser sur Joe Wright.
Et voilà, donc qu'est-ce que je disais ?
Bah,
super un roman culte écrit par une nana, ce qui à l'époque était quand même pas hyper courant, c'est-à-dire à part Lester Bronte et Jane Austen, ça se bousculait pas au portillon.
C'est pas l'expression peut-être que t'as envie de chier ça.
Mais non, vraiment pas du tout.
Non, c'est OK, je vois à quoi tu penses et je l'ai pas en détail. Non, se bousculer au portillon veut littéralement dire ça se bouscule au portillion, donc il y a du monde qui vient.
OK, ouais, c'est ça. Je croyais que c'était vraiment une expression.
Voilà, classique, on parle pas assez de classique, voilà, Janer, relisez-le 1000 fois, Rochester kiffe sur lui, problématique, mais bon, c'est comme ça arrive. Bisous.
Tout à fait. Du coup, je vais mais c'est bien parce qu'on a une belle diversité dans ce qu'on raconte puisque toi tu avais une histoire autobiographique très réaliste sur des choses du quotidien, toi tu avais un truc un peu plus sociaux, un peu plus engagé, ce qui n'est pas très surprenant.
Je suis chiant, quoi.
Classico-romantisme, mais aussi problématique, car qu'est-ce qu'on attend d'autre d'un kiff de Kalindi ? J'arrive, je bois de l'eau. Et moi, fidèle à moi-même, on me dit...
Ça va être Daenerys, putain,
non,
merde.
Non, ça va être Daenerys, qui est vraiment pas ma meuf préf de Game of Thrones. Enfin, on se connaît, c'est Brienne.
Oui, évidemment.
Maintenant, j'ai envie de parler de Brienne, mais c'est pas mon sujet, car c'est mon autre obsession. Stephen King,
Focus.
Vous connaissez ou pas ? Stephen King est un auteur américain. Non, donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, peut-être c'est votre premier Laisse-moi kiffer. J'ai une addiction à Stephen King depuis que j'ai lu Cimetière à 9 ans. J'étais trop petite, ça m'a marquée. Et depuis, je lis tous les Stephen King, évidemment, je les relis et je les re-relis. Et sur Next Story, il y a un de mes Stephen King préférés dont je suis très contente d'avoir l'occasion de parler, qui s'appelle Dolores Claiborne, qui est un Stephen King
j'ai
moins connu.
Parler.
Pourtant, il a aussi été adapté en film avec aussi Kathy Bates, qui joue notamment dans Misery.
Oui.
Mais c'est la période un peu film semi-téléfilm des années 90 là, puisque le bouquin est sorti en 92, donc c'est pas un de ses plus vieux. Mais Stephen King écrivant un livre par an, il y en a déjà beaucoup qui sont sortis depuis, puisque ça fait 30 ans. Et du coup, Dolores Claiborne fait partie de ce qu'on appelle la trilogie féministe de Stephen King, puisqu'il a une vraie trilogie, alors c'est pas des œuvres qui suivent, mais il a un triptyque avec des héroïnes, et qui sont, c'est pas des livres féministes parce qu'il y a simplement une femme en personnage principal, mais parce que ça explore réellement le vécu des femmes, et notamment les violences faites aux femmes. Cette trilogie, elle est composée d'un livre qui s'appelle Jessie, en anglais c'est Gerald's Game, en français c'est Jessie, ça a été adapté en film Netflix. D'un bouquin que j'adore qui s'appelle Rose Madder, qui est sur une meuf. En fait, ça commence avec une femme qui s'enfuit de la maison de son mari qui est violent et qui est flic. Et donc, elle va dans une autre ville et elle trouve une maison pour femmes battues. Et en fait, lui, il la traque. Et c'est hyper flippant. Je me souviens que c'était un de mes premiers contacts avec la réalité des violences conjugales. Et en plus, c'est des violences conjugales très, voilà, très, très violentes et très physiques. Ça m'avait terrifié, ce personnage. Et en même temps, j'étais trop là en mode, il y a tout ce truc de sororité, de groupe de meufs qui s'entraident et tout.
Et le troisième bouquin qui forme ce qu'on appelle la trilogie féministe de Stephen King, c'est donc Dolores Claiborne. J'adore Dolores Claiborne parce que c'est déjà une forme de bouquin qui est assez originale et que j'aime beaucoup. Un peu comme j'aime beaucoup les romans épistolaires, je trouve qu'il y a... j'aime bien quand ça joue avec la forme, puisque là c'est un monologue quasiment le bouquin. C'est l'héroïne, c'est Dolores Claiborne, c'est une vieille dame assez acariâtre qui est employée, donc un peu gouvernante, femme à tout faire, par une riche dame qui s'appelle Vera et qui a une grande maison sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, donc comme se passe 120% des bouquins de Stephen King. Donc voilà, c'est une meuf qui... C'est une île un peu reculée, quoi. Donc le setting, déjà, voilà, grande maison, une île battue par les eaux de l'Atlantique, il y a une histoire d'éclipse et tout. Il n'y a pas du tout de surnaturel. Donc on n'est pas dans du Stephen King horreur, on n'est pas dans du Stephen King magie. On est dans du Stephen King du quotidien qui, moi, je trouve qu'il le fait très bien. Et notamment, un de ses bouquins les plus connus qui est Les Évadés. Bah, c'est une nouvelle, mais bon, c'est une longue nouvelle. Il n'y a pas du tout de surnaturel dedans. Et donc Dolores Claiborne est interrogée par deux enquêteurs. Et tout le livre, c'est sa déclaration finalement à la police, parce que son employeuse Vera, donc la dame riche, est morte, et qu'il pense que c'est elle qui l'a tuée. Et du coup, elle raconte, elle décide, elle se pose, elle fait du thé, et elle est là, tu sais quoi, si vous voulez que je vous raconte, je vais vous raconter tout, je vais vous raconter ma vie en fait. Et donc tout le bouquin, qui fait quand même 300 pages, c'est le monologue de Dolores Claiborne qui raconte sa vie de femme, et sa vie de mère, et sa vie d'épouse. Et en fait elle dit, si vous m'accusez d'avoir tué mon employeuse, sachez que c'est pas vrai. Par contre, ce que je peux vous dire un truc, c'est que j'ai tué mon mari, et je vais vous expliquer pourquoi. Son mari qui est mort il y a longtemps déjà. Et du coup, bah, elle raconte toute sa vie avec, déjà moi j'aime bien le côté... c'est une vieille dame ronchon, quoi. Elle est pas agréable, elle est pas sympa, elle est pas féminine, et je trouve que c'est cool les auteurs hommes qui arrivent à écrire des meufs qui sont pas juste des meufs bonnes, parce qu'en vrai, pour le coup, je trouve que Stephen King, quand il écrit des meufs qui sont les meufs de ses héros, c'est pas toujours dingue en termes de profondeur du personnage, et il y a un peu beaucoup des descriptions de ses seins là, mais quand il écrit des femmes qui sont juste des femmes et qui sont des personnages à part entière, je trouve qu'il en fait des choses aussi intéressantes que ce qu'il fait avec ses personnages masculins. Du coup, c'est un personnage féminin qui est assez, voilà, assez atypique, qui n'est pas en tout cas dans ce qu'on peut imaginer en termes de féminité évidente. Elle est pas agréable, et il y a un côté un peu social, parce que du coup, bah, c'est une employée, c'est une prolétaire, c'est une personne qui est pauvre, qui a pas beaucoup de revenus, qui travaille pour une femme riche, et on l'accuse aussi de l'avoir tuée, parce qu'il y a cette idée de, bah, c'est le petit personnel forcément. Et bah, il y a tout un côté, c'est une femme avec un vécu de femme dans un monde patriarcal, puisque bah, du coup, son mari était un homme violent, elle a eu une fille avec lui, du coup elle voulait aussi protéger sa fille des violences de son mari, qui était aussi des violences sexuelles. Et du coup, bah, toute l'histoire de sa vie, c'est une vie de femme qui est marquée par la violence de classe, la violence patriarcale, et au final, l'horreur, c'est pas l'horreur à la Stephen King, c'est pas un clown dans les égouts ni rien, c'est juste, en fait, l'horreur, elle est parfois aussi dans la vie des femmes, mais c'est pas un bouquin qui est déprimant ou défaitiste. Je vous le dis pas, c'est ultra feel good et on se tape des barres, parce que c'est du Stephen King, c'est jamais ultra feel good et on se tape jamais des barres, mais c'est une histoire pas tant de résilience, parce qu'il y a pas le côté genre, ouais, elle est tellement forte de s'en être remise, mais de juste d'une meuf combative, qui est pas en train de se lamenter sur son sort, qui a jamais demandé le moindre service à personne, qui a jamais demandé le moindre passe-droit, qui sait se défendre et qui sait ce qu'elle vaut, et qui a juste décidé un jour de plus laisser les hommes lui faire du mal, quoi. Et aussi, bah, évidemment, de protéger d'autres femmes qu'elle, en commençant par sa fille. Et puis voilà, elle travaillait pour une femme qui, du coup, est décédée, mais il y a aussi la relation entre ces deux femmes-là, donc Dolores et son employeuse Vera, qui est... très très intéressante, parce que Vera, c'est une dame, donc voilà, c'est une bourge un peu fantasque, un peu fragilos, tout le temps des dramas, tout le temps des trucs qui vont pas. Donc tu comprends pourquoi les gens se disent peut-être Dolores, elle l'a butée, parce que Dolores a l'air d'avoir très peu de patience, et Lago a l'air voilà, un peu zinzou. Et en même temps, bah, c'est souvent, elles sont la seule compagnie l'une de l'autre, et Vera, sa santé périclite, parce qu'elle elle est âgée. Donc il y a aussi tout un truc de, bah ouais, de quasiment aide-soignante, aide à domicile, aide médicale que Dolores va prodiguer à cette personne. Donc il y a une intimité physique aussi, et une vulnérabilité qui se crée entre deux femmes qui ne s'aiment pas mais qui ont besoin l'une de l'autre, puisque Dolores a besoin de son travail et Vera a besoin qu'on s'occupe d'elle. Mais elle déteste un peu aussi Dolores de lui rappeler sa propre faiblesse. Donc il y a des relations hyper fouillées entre divers personnages féminins, entre des personnages féminins et masculins. Il y a aussi ce truc de... Comme c'est une déposition, il y a régulièrement des questions des enquêteurs qui viennent quand même casser un peu le rythme, offrir une respiration. Et c'est souvent l'occasion pour Dolores de lâcher des grosses punchlines, parce que vraiment, elle les méprise, et c'est très clair. Et du coup, il y a quand même des aspects un petit peu marrants du bouquin, parce qu'elle a une grande gueule, on va dire. Mais c'est un des Stephen King les moins connus. C'est pas le plus spectaculaire, mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs. Et je me souviens, quand je l'ai lu la première fois, je l'ai pas lâché, genre je l'ai lu d'une traite, et j'avais tout, quoi. J'avais la grande baraque sur l'île, à un moment ils vont en bateau, il y a l'éclipse, c'est un côté, ouais, un peu un peu murder mystery de voilà, dans un endroit isolé, cette femme est morte, c'est la faute de qui ? Et puis ça retrace toute la vie de Dolores, donc sur des décennies, et moi j'aime bien les bouquins sur du temps long. Donc il est trop bien, il est dispo sur Nextory, et je pense qu'il est aussi cool en, lire, à lire qu'à écouter, parce que comme c'est une personne qui parle et qui raconte son histoire, bah, l'oralité, l'aspect audio s'y prête aussi très bien. Donc je vous encourage à découvrir Dolores Claiborne et le reste de la trilogie féministe de Stephen King si c'est pas déjà fait. J'ai hésité parce que je me disais, voilà, c'est quand même un mec, peut-être je devrais parler d'une autrice, mais en termes d'héroïne, puisque c'était le thème, Dolores Claiborne...
3 sur 4, ça va.
Voilà, j'ai pas pu tout cocher.
Mais c'était pour les quotas.
Voilà, je serais évidemment la personne qui parle d'un auteur masculin parce que, bon, Stephen King, une passion. Mais voilà.
Ça me donne très envie.
Très bien. Et tu peux le retrouver, bien sûr.
Évidemment, sur Nextory, évidemment.
Évidemment. Eh bien, c'est la fin de ce Laisse-moi kiffer, très cultivé, mais dans lequel on a quand même bien rigolé. Merci beaucoup, tous les trois, pour cette aventure. On remercie bien évidemment notre partenaire Nextory, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Et je vous rappelle que pour tester Nextory, vous avez accès à un code promo spécial LMKiffeur et LMKiffuse, puisque le code promo est tout simplement LMK, pas comme notre compte Instagram qui est @laisse-moi-kiffer, souvenez-vous. Et avec ce code promo, vous avez 6 semaines, soit 45 jours, d'offres premium Nextory offertes, c'est-à-dire des e-books, des BD, de la presse en illimité et un audiobook par mois. Et c'est une offre qui, d'habitude, est à 11,99€ par mois. Et là, vous l'avez offerte pendant 6 semaines. Le code promo est valable jusqu'au 31 mai. Et vous pouvez retrouver, bien sûr, toutes ces informations dans les notes du podcast. On va pas vous faire noter.
Super.
C'est bon pour tout le monde, pas de mots de la fin, plus rien à ajouter. Eh bien, on vous dit... à la semaine prochaine, ou si vous êtes très ponctuel sur l'écoute de ce podcast, à ce soir, puisque si on est le 24 mars 2022, ce soir c'est Laisse-moi kiffer sur Twitch. Des bisous! Bye bye! Lisez des
bisous! Salut!